Chapitre 33. Wilhelm Hammershøi. Fais parler ton intérieur. Mona n'avait jamais entendu si désagréable sonnerie, à la fois stridente, cahotante et enrouée, venue d'un autre âge. Et tandis qu'elle retentissait dans la boutique, son père se tendit soudain et s'agrippa les cheveux, l'air d'un véritable fou. C'était un téléphone à cadran qui bruissait ainsi devant lui. Il décrocha et demanda fébrile « C'est toi ?» Une voix répondit
« Camille au bout du fil. »
Paul bondit de sa chaise. Il exultait. Alors Mona comprit que le vieux combiné en bakélite des années 1950 que son père s'échinait à adapter en appareil cellulaire avait fini par fonctionner au prix d'efforts inouïs. Les lèvres collées au microphone, il embrassa sa femme et lui cria tout son amour. Puis il se précipita vers Mona. Il lui prit les joues entre les mains et lui annonça que cet été, ils iraient sur des brocantes vendre des prototypes de son invention. Il trépignait. L'enfant lui sourit et l'observa. Ses cernes avaient disparu et il avait le teint plus frais. Il avait rajeuni, sans doute parce qu'il ne buvait plus. Et ce fut très étrange pour Mona d'éprouver un certain déplaisir devant cet état de grâce. D'où venait son malaise? Malgré son jeune âge, elle sentit de quoi il s'agissait. C'était la peur que cet état cesse qui soulevait en elle une insidieuse douleur. Car l'anticipation anxieuse du retour d'un problème à l'heure où tout va bien, à cet instant où la félicité devrait rayonner sans obstacle, rend la vie parfois aussi accablante que l'expérience véritable du problème. La psyché humaine apprivoise bien plus facilement une difficulté présente que son éventualité redoutée. Du haut de ses 10 ans, Mona l'apprenait. Poussée par son instinct, l'enfant eut soudain un trait d'humour. Elle fit comme si elle brandissait un verre pour fêter la nouvelle et suggéra à son père de trinquer. L'euphorie de Paul se cassa net. Il se sentit écorché et déçu face à ce qu'il interprétait comme une maladresse de sa fille. Avec une ironie dépitée, il lui reprocha « Ah, c'est tout ce que tu trouves à faire. Merci, Mona. » C'était horrible et cruel, cette bourrasque glaciale. Mona en eut l'estomac retourné car elle ne voulait pas du tout l'offenser. Ce qu'elle avait cherché, c'était à jouer, de manière purement décalée, la possibilité de voir son père reboire. Et mieux encore, c'était à mêler de façon fictive cette perspective mortifère à un moment joyeux. Elle sombra dans un mutisme désolé, et Paul, braqué sur sa vexation, se crispa durablement. Plus tard, dans leur lit, Camille, étonnée du visage fermé de son mari, l'interrogea. Il bredouilla l'incident à la boutique avec Mona. Elle se redressa, les cheveux en bataille, et prit son air d'autorité. « Mais tu es idiot, Paul, ou quoi? Ta fille a fait ça pour dépasser une peur. Tu peux comprendre quand même, non ?»« Si, bien sûr, il le comprenait maintenant. Eh oui, en effet, il avait été idiot, complètement idiot. Il accourut dans la chambre de Mona. Elle ne dormait pas. Il lui sourit tendrement. « Pardon, ma chérie, je venais trinquer avec toi. À ta santé. » Son verre imaginaire scintilla dans la pénombre. L'été, à peine commencé, était déjà caniculaire. Ce fut l'occasion pour Mona de réclamer coup sur coup 2 glaces chocolat vanille à son grand-père. Elle les avala en traversant les Tuileries. Dans les allées du parc, la fillette fut frappée par l'effet stromboscopique que produisaient les rayons du soleil à travers les arbres. Elle ferma les yeux et s'enivra des filaments et des pulsations de lumière dansant sous ses paupières, comme si elle portait en elle des galaxies entières. Elle chantonnait en même temps. Henri lui apprit le joli mot de phosphène pour désigner ces taches s'imprimant sur la rétine. Il évoqua au passage 2 artistes américains, Brian Gysin et Ian Somerville, qui au début des années 1960 créèrent des Dream Machines, des installations qui favorisaient la démultiplication de ces phénomènes optiques et provoquaient un état méditatif. Il fallait pour cela un cylindre ajouré de multiples fentes autour d'une ampoule centrale. On le montait ensuite sur un tourne-disque pour qu'il gravite sur lui-même. après quoi il s'agissait de concentrer sa perception sur l'appareil, mais en gardant les yeux clos. Mona voulut évidemment essayer. « On ne trouve pas ça comme ça », lui rétorqua son grand-père.
« Papa m'en fabriquera un. »
Par cette chaleur écrasante, la visite au musée d'Orsay s'annonçait des plus rafraîchissantes, puisque le tableau du jour était un intérieur froid, réalisé par un grand maître du Nord au nom viking, Wilhelm Hammershøi. Une femme était assise de dos face à un mur. Elle portait une épaisse robe noire surmontée d'une blouse plus claire que fendait une ouverture dorsale. Le col était rond et il en surgissait la colonne vertébrale, puis dans sa lignée, la nuque et la tête, avec sa masse de cheveux châtains regroupés en un chignon. Elle se trouvait en position centrale dans le tableau. La symétrie avait beau être brisée par une ligne d'épaule s'inclinant légèrement de la gauche vers la droite pour aboutir à un bras s'engageant en arrière, la composition était extrêmement équilibrée et dotée d'une harmonie aux limites du sacré. De la chaise, vue en son revers, on ne distinguait ni les pieds ni l'assise, mais seulement le dossier avec ses barreaux reliés par une solide traverse supérieure, sous laquelle s'en trouvaient deux autres, l'une inférieure, très fine, et une traverse médiane, ondulante, conférant de la rondeur à un ensemble dominé par le sens de l'angle et du quadrillage. Ce meuble était d'un bois modeste, de même que la desserte à droite de la composition, coupée par le bord du cadre et où reposait un plat blanc cerclé de corolles. Et surtout, il y avait le mur, strictement parallèle au plan de la toile. Rien n'indiquait la moindre activité chez cette femme, dont les mains se dérobaient à la vue, de sorte que toute proche de ce grand pan opaque et terne, les genoux presque collés à celui-ci, elle semblait le regarder, lui. Qu'y trouvait-elle? Il était à peine rythmé par la plinthe qui se hissait jusqu'au quart de l'axe vertical de l'œuvre. Quoique gris, il chatoyait d'une lumière mystérieuse, comme si une intrusion du jour était venue s'accrocher à un sombre et sobre intérieur. Mona réalisa, durant le temps infini qu'elle consacra à observer l'œuvre, qu'elle faisait face à cette peinture comme la femme elle-même faisait face au mur peint. Quant à Henri, l'enchaînement de la nuque de sa petite fille et celle du modèle lui évoqua ce tableau surréaliste de René Magritte, où un homme de dos, en se regardant dans un miroir, renvoie le reflet de son échine et non de son visage.
« Oh, Dadé ! Les mèches de cheveux, et puis là, les petits plis de son vêtement, et ceux dans la vaisselle en forme de fleurs, là. C'est beau, tout ça. Tu sais, parfois, je me demande combien de temps il faut passer à l'école pour arriver à faire des peintures aussi belles. Je veux dire, les artistes, quand ils sont enfants, est-ce qu'on sait déjà qu'ils vont devenir des artistes ?»
Il existe souvent, autour des grands peintres, des légendes sur leur précocité. Je peux t'en raconter deux au sujet de Wilhelm Hammershøi. La première, c'est qu'à 2 ans à peine, il avait, dit-on, été capable de distinguer et de ramasser un trèfle à 4 feuilles dans l'herbe. Voilà qui démontrait une extraordinaire sagacité visuelle dès son plus jeune âge. Quant à ses dons d'artiste, on raconte qu'à 8 ou 9 ans, alors que sa mère lui lisait un conte plein de trolls et de gnomes, il se saisit de ses crayons pour figurer les créatures. Et il y parvint avec une telle puissance que les monstres qu'il avait lui-même dessinés le terrifièrent et le poussèrent à s'enfuir en courant.
« Il a eu peur de ses propres dessins ?»
Mona avait l'air incrédule. Oui, cela devait être très effrayant. Hammershøi n'a cependant pas poursuivi dans cette veine fantastique. Il aurait certainement pu, car il vient du Danemark, un pays du nord de l'Europe, une zone riche en mythes surnaturels, peuplée de sorcières lançant leurs incantations au milieu des forêts, parmi des arbres qui s'animent la nuit. Mais il va finalement faire tout à fait autre chose. Comme tu le vois, ce qui l'intéresse ici, c'est un intérieur dans sa plus stricte banalité.
Ça rappelle un peu Vermeer, dit.
Sans doute, mais avec un plus grand dépouillement. On compte fort peu d'éléments, sinon la chaise en position centrale, une lourde desserte et ce plat blanc que tu as déjà remarqué. Hammershøi appréciait le mobilier ancien, d'un bois qui devait être beau sans être précieux. Il disait qu'un intérieur n'a pas besoin d'être trop chargé, mais que l'espace gagne à être rythmé par quelques éléments simples et modestes, pourvu qu'ils soient de qualité.
Je parie qu'il aurait détesté nos décors d'aujourd'hui.
Disons en tout cas qu'il rejetait à la fois ce qui est ostentatoire et ce qui est trop vulgaire. Ce qui enclenche chez lui le désir de peindre, ce sont les lignes et leur pureté. C'est l'une des seules choses qu'il ait dites publiquement sur sa manière de procéder. La qualité d'une ligne, courbe ou droite, l'enchantait tellement qu'il souhaitait en retranscrire la beauté. Dans ce tableau, par exemple, il devait être excité par la plinthe, l'armature de la chaise, ou encore, sur la gauche, par cette bande d'ombre portée que produit hors champ un rideau ou le retour d'un mur. Tout cela qu'il appelait la tenue architectonique.
Dadé, il aurait dû être décorateur, ton Hammershøi, plutôt que peintre.
Mais il n'avait pas le choix.
Ah bon? Qui le forçait?
Laisse-moi t'expliquer. Hammershøi fut un homme discret, nerveux dès lors qu'il lui fallait prendre la parole, assez mélancolique aussi. Les témoignages à son sujet disent qu'il ne parlait que très peu, et par ailleurs qu'il n'entendait pas très bien, il était sourd de l'oreille gauche. Je t'avais déjà cité le nom du grand poète, Rainer Maria Rilke, voilà quelques semaines. Eh bien, figure-toi que celui-ci rendit un jour visite à Hammershøi dans son sobre et bel appartement du premier étage du 30 Strandgade à Copenhague, celui-là qui sert de cadre à ce tableau. À cause de la réserve naturelle de l'artiste et de la barrière de la langue, ils n'échangèrent quasiment aucun mot. Et Rilke repartit en observant « On sait qu'il ne se consacre qu'à la peinture, qu'il ne pourrait ni ne désirerait faire autre chose que de peindre. » Je crois que c'est vrai. Hammershøi était hanté par sa vocation. Il ne souhaitait même pas commenter et analyser sa production, ni débattre d'esthétique. Il peignait, en silence, tout le temps, obstinément. C'était son unique moyen d'expression et, d'une certaine façon, sa seule manière d'exister. Et d'ailleurs, que peignait-il? Son existence, dans ce qu'elle avait de plus immédiat, rien de plus, rien de moins, son foyer, ses objets, et son épouse, Ida.
« Dis, Dadé, c'est bizarre de peindre sa femme de dos quand même. Tu sais, c'est comme pour la maman de Whistler. On avait l'impression qu'il s'était trompé de côté pour faire son portrait. »
Je crois plutôt que Hammershøi voulait exprimer toute sa fascination pour une partie du corps qu'on observe trop rarement dans l'histoire de la peinture, et bien sûr jamais dans le portrait classique.
« La nuque !»
suggéra Mona en touchant la sienne. « Excellent ! La nuque, tout en souplesse, tel un sillage étincelant. Quant à l'allusion à Whistler, tu as vu juste. C'est un artiste qu'aimait Hammershøi, en particulier pour ses couleurs.
Mais justement, Dadé, on dirait que les couleurs comptent pour du beurre ici. C'est tout gris. »
Il use volontairement de couleurs sourdes, étouffées, parce qu'à son sens, d'un point de vue chromatique, il obtient le maximum d'effet en limitant la gamme de sa palette. Or, l'effet qu'il cherche, c'est celui du silence et de la rêverie. De manière générale, plus un tableau est chatoyant, plus il semble irrigué d'une énergie physique. Plus les tonalités deviennent neutres et minérales, plus il donne le sentiment d'être attaché à la méditation et à l'irréel. Henri tenta alors d'expliquer à sa petite fille un phénomène historique complexe, celui de la naissance de l'intime. Il raconta cette façon dont les logis, au fil des 18e et 19e siècles, s'étaient segmentés en différentes pièces dans des habitats de plus en plus urbains. Il raconta comment ces lieux clos, chambres, salles d'eau, boudoirs ou cabinets, avait favorisé l'attention à soi-même, à ses sensations et à sa subjectivité dans le repos de son propre appartement. C'était assurément passionnant, mais Mona se sentait légèrement étourdie, voire chancelante. La chaleur, sans doute. Henri hâta ses explications. Ida est plongée dans l'intérieur de son foyer, elle est aussi au cœur de son propre intérieur, à elle et à elle seule. Et entre les deux, il y a un lien, c'est le mur. Ce mur dont le peintre rend les miroitements sous l'effet d'une source lumineuse hors cadre, une fenêtre qu'on ne voit pas, située à gauche de la composition. Vois-tu, Mona, le génie de cette toile vient du fait que la position de dos du modèle empêche le public de voir ses mains. Il y a un léger mouvement des épaules et du coude droit, mais rien, nulle part, ne permet de dire si Ida est en train de lire ou de broder, par exemple. Rien. Et dès lors, nous sommes appelés à regarder ce mur, à nous en imprégner en silence.
Alors, c'est ça la leçon de Hammershøi ?
C'est cela. Il faut faire parler son intérieur. Les étourdissements de Mona augmentaient. Elle s'efforça néanmoins d'observer plus en profondeur le papillonnement pâle de la paroi, ce pan peint d'un pinceau lacté très légèrement verdâtre et parfois bleui. Elle rêva et s'engourdissait dans sa rêverie. L'œuvre s'intitulait « Repos », elle l'avait bien noté. Mais à l'expérience du calme, succéda celle d'un éprouvant malaise. Son esprit devint brumeux, et bientôt si confus qu'elle se mit à chercher dans le tableau de Hammershøi la trace d'un trèfle à quatre feuilles ou d'un troll. Son grand-père, alerté par les mots incohérents de Mona et son visage devenu blafard, la fit précipitamment asseoir sur un banc du musée. Elle eut un bref instant l'impression de suffoquer à en mourir, étranglée par la chaleur. Par un réflexe aberrant, elle ôta son pendentif pour trouver un peu d'air, comme elle aurait retiré une écharpe ou un pull. Son pouls accéléra à nouveau. Elle hissa la tête car elle voulait revoir le petit pan de mur gris. Il était noir, tout était noir. Elle se figea pendant plusieurs secondes, les yeux bâchés par ce vieux cauchemar de la cécité qui recommençait. « Respire, Mona, respire !» répétait Henri sans perdre un seul instant son sang-froid.
« Ça va, Dadé, ça va !»
Non, ça n'allait pas, mais Mona verrouilla son drame. D'une main, elle agrippa fort le genou de son grand-père, et de l'autre, elle remit le série de gommier autour du cou pour ne pas le perdre. Elle inspira, expira, encore et encore, jusqu'à ce que son cœur reprenne une cadence acceptable. L'écran opaque s'éclaircit bribe par bribe. Face à elle, la nuque d'Ida réapparut, l'encadrement de la chaise, la corolle blanche du plat à droite et l'ombre portée à gauche, et enfin le mur, le petit pan de mur de Wilhelm Hammershøi. Elle se serra contre Henri.
« Ça va, Dadé. Ça doit être les glaces. Je les ai mangées trop vite. »«
Ma pauvre chérie, tu as même cru voir un troll. »«
Je l'ai vu. »«
Allons. »«
Là, je te dis, dans le pli de la manche droite, au niveau du coude, c'est la tête d'un troll, avec la bouche qui gémit, le gros nez écrasé et l'œil qui glisse vers le bas. »
Henri examina le détail qu'indiquait Mona. Elle avait raison.